jour, de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous interroger en cette année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, sur l'art et la manière de percer le mystère des écritures anciennes, de craquer des codes et d'en concevoir d'inviolables. Et si c'était dans notre ADN, retour sur le colloque de rentrée du Collège de France, consacré cette année au déchiffrement des hiéroglyphes à l'ADN, en passant par la cryptographie quantique, en compagnie de nos invités, le professeur Jean-Luc Fournet, papyrologue, autrement dit spécialiste du déchiffrement des papyrus, et la physicienne Eleni Diamanti, spécialiste de cryptographie quantique, qui vont tous deux nous donner quelques clés en chiffres comme en lettres autour de la question comment déchiffrer les mondes. Bienvenue pour commencer par décoder un peu en musique avec ce picot.
Je ne vois que ce que je veux voir.
Décodons.
Décodons. 4, 7, 3, 3, 0, 7, 5.
Il y a deux choses écrites sur la mélodie.
Écrites sur la mélodie.
Écoutez.
Puis, détruisez. Pour construire.
Bonjour Eleni Diamanti.
Bonjour.
Bonjour Jean-Luc Fournet.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour déchiffrer, décrypter les plus anciennes écritures du passé, mais aussi pour chiffrer, coder, écrypter les plus inviolables clés quantiques de l'avenir. Alors vous avez tous les deux participé au colloque de rentrée du Collège de France consacré au déchiffrement, au pluriel. Ce mot de déchiffrement, professeur Jean-Luc Fournet, vous qui êtes papyrologue, spécialiste du déchiffrement des écritures anciennes sur papyrus au Collège de France, commissaire également de l'exposition et qui avait dirigé le catalogue qui a célébré Champollion 1822 et l'Égypte retrouva la parole. Cet usage du mot déchiffrement, qui s'applique aussi bien au décodage des lettres, des signes que des chiffres, s'est répandu précisément à partir du moment où Champollion a craqué le code, a déchiffré les hiéroglyphes.
Et effectivement, le mot déchiffrer est un mot qui a évolué, son sens a évolué avec le temps. Si l'on regarde, par exemple, les anciennes versions du dictionnaire de l'Académie française, on voit que déchiffrer avant Champollion signifiait lire ou expliquer ce qui est écrit en chiffres, c'est-à-dire ce qui est codé. Et avec un sens, on va dire, dérivé qui est, ou un sens analogique qui est déchiffrer ce qui est mal écrit, c'est-à-dire par exemple déchiffrer une lettre mal écrite. Voilà. Et il n'est pas du tout à l'époque utilisé pour l'opération qui consiste à déchiffrer une écriture qui jusqu'ici était inconnue. Il faut attendre donc le déchiffrement de Champollion en 1822 qui a été un événement qui a créé dans la société de l'époque qui a eu un gros écho. Il faut attendre cette découverte pour que le sens de déchiffrer évolue. Et si l'on regarde là encore les dernières versions du dictionnaire de l'Académie française, on voit que le terme, le verbe, prend ce sens de déchiffrer, arriver à lire quelque chose qui est écrit dans une écriture qui était inconnue. Et l'exemple qui est donné d'ailleurs dans le dictionnaire, c'est déchiffrer les hiéroglyphes, évidemment, à cause de Champollion. Donc on voit que ce verbe a évolué et que ça signifie tout d'abord quelque chose qui est chiffré, mais ensuite que ça peut prendre le sens de... Ça peut, disons, désigner cette opération intellectuelle qui consiste à comprendre quelque chose qui est écrit dans une écriture et parfois aussi une langue, puisque derrière l'écriture, il y a la langue, qui n'est pas connue au moment où on craque le code.
Et même aussi, ce que vous faites, on y reviendra, hein, Jean-Luc Fournet, à déchiffrer, notamment sur papyrus, sur des amphores, des écritures dont on connaît la langue, mais dont on ne comprend pas le sens. Hein.
Voilà,
ça va jusque-là pour déchiffrer.
Ça se rattache peut-être, disons, au premier sens, c'est-à-dire lire quelque chose qui est mal écrit, quand je dis mal écrit, ou qui est difficilement lisible, c'est-à-dire, en fait, déchiffrer, par exemple, une inscription effacée ou déchiffrer un papyrus, puisque ça fait partie de mon travail. Lorsque je suis devant un papyrus, malheureusement, il est souvent difficile à lire parce qu'il y a des trous, il y a des lacunes.
Et oui, c'est remplir les blancs
voilà,
aussi. Hein,
ouais. Et donc, il faut faire des, ce qu'on appelle techniquement des restitutions, c'est-à-dire essayer de voir ce qui se trouve manquant, ce qui était dans les trous. Voilà. Donc il y a tout un travail qui permet, avant même d'arriver à comprendre le texte, qui permet de le lire.
C'est ça, et c'est ça le déchiffrement. Alors depuis Champollion, j'ai envie de dire, nous n'avons cessé de déchiffrer et de chiffrer aussi hein, jusqu'à notre ADN, et c'est loin d'être fini, avec la révolution quantique qui s'annonce, Hélène Diamanti. Alors vous êtes physicienne, directrice de recherche CNRS au laboratoire informatique de Sorbonne Université, également du centre Paris Centre for Quantum Computing, spécialiste de cryptographie quantique, un domaine en plein essor. Est-ce qu'il faut parler dans ce domaine-là de cryptographie quantique, de déchiffrement ou plutôt de chiffrement quantique, Hélène Diamanti?
C'est une très bonne question. Donc, il faut parler de deux. Ça va de, bien sûr, quand on chiffre, il faut savoir déchiffrer aussi. Et c'est très intéressant, justement, de confronter cette conception qu'on vient d'écouter des concepts, donc de la notion de chiffrement et déchiffrement, parce que justement, au contraire des papyrus et de ces écritures où il y a des trous, exactement ce qu'on vient d'entendre, il y a des lacunes, on essaye de déchiffrer, ou même l'ADN. Ici, on parle ici de la volonté
de chiffrer,
déchiffrer,
de coder,
décrypter, décoder. Mmh, mmh. Et ça, c'est aussi vieux que le monde. Donc, notre volonté, la volonté humaine de vouloir cacher des messages, d'échanger des messages secrets, c'est aussi vieux que le monde. Donc, c'est pas nous, les cryptographes quantiques, qui ont inventé ces besoins. Il y a eu toute une histoire depuis la Grèce ancienne avec les codes, les skitales, justement. Donc, c'était, ils utilisaient nos ancêtres et des modes, des codes. Donc, des déchiffrements et des déchiffrements qui étaient basés sur des outils qu'ils échangeaient. Qui, donc, aujourd'hui, ça paraît un tout petit peu anecdotique, mais c'était
mais
quand même,
début,
ça fonctionnait
finalement.
À l'époque. Ah, c'est le début de la cryptographie, qui est d'ailleurs un mot justement grec. Justement, c'est ça que ça veut dire.
Et votre donc, langue ensuite, à vous, hein, votre langue originelle.
Exactement, je suis bien placée pour le savoir. Ensuite, on est passé dans l'époque romaine où on a eu d'autres codes, des César, où on déplaçait un peu quelques lettres pour... Donc ça, c'était donc, des processus inconnus. Un processus inconnu pour... Et donc, ça, la sécurité dépendait de ces processus de chiffrement et de déchiffrement qui étaient connus que des personnes qui souhaitaient échanger les messages secrets. Ensuite, la sécurité et la cryptographie est passée à l'époque moderne avec notamment les machines Enigma, donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'était un tournant quand même dans le monde de la cryptographie.
Et Alan Turing qui a réussi à déchiffrer,
exactement,
à décoder le code.
Et on arrive à notre monde à nous où la cybersécurité est quand même au cœur. Ça a pris même toute une autre dimension parce que c'est un intérêt géopolitique, stratégique. Donc, savoir chiffrer et déchiffrer efficacement et avec une sécurité absolue est un enjeu aujourd'hui.
Un enjeu,
et c'est là
sécurité
où vient
absolue.
La
Absolument. Et ce serait possible avec la révolution
voilà.
quantique.
Et c'est là où vient la révolution quantique. La révolution quantique, on l'appelle d'ailleurs donc la deuxième révolution quantique, la seconde révolution quantique, parce que contrairement à la première où on a utilisé les phénomènes de la physique quantique, notre compréhension du monde quantique pour générer, pour pouvoir, on a exploité pour faire certaines technologies qu'on utilise comme les disques durs, qu'on utilise dans notre vie
qu'on
quotidienne.
Qu'on utilise tout le temps. Hein.
On n'est pas aller jusqu'au codage de l'information au niveau de la particule physique. Et donc, la seconde révolution quantique, c'est ça qu'on a réussi à faire. On a réussi à aller vraiment à contrôler, manipuler les particules uniques, coder l'information, et c'est ça finalement la base qui nous amène vers une sécurité absolue, une sécurité qui n'existait pas, qu'on ne peut pas atteindre dans le monde classique.
Vous nous en direz plus dans quelques temps, hein, Hélène Diamanti, autour de cette sécurité inviolable de ce chiffrement quantique autour de la question comment déchiffrer les mondes. Je vous propose tout de même de commencer d'abord par décoder un peu avec le mix clé en main de notre réalisateur Thibaut Baduel.
Il y a environ 2000 ans, sous le règne de Cléopâtre, la reine des reines, les Égyptiens parlaient comme ça. Ce langage n'est certes pas facile à comprendre.
En 1822, Jean-François Champollion parvient à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens.
Mais il y a beaucoup trop d'informations pour décoder la matrice. On finit par s'y habituer. En fait, je vois même plus le code.
La nécessité d'un déchiffrement ne se pose pas seulement par rapport aux langues. On doit déchiffrer tous les jours. Le thème du déchiffrement est fédérateur puisqu'il concerne toutes les sciences. Bien sûr, les sciences du langage, mais aussi le cosmos. Et on peut également considérer le code génétique comme un défi de déchiffrement. Ou encore la physique quantique omniprésente dans les nouvelles technologies, mais qui met en déroute l'intuition commune et qui nous confronte aussi à de nombreux paradoxes.
Sur la musique bien kitsch de la série télévisée Code Quantum, avant de rentrer dans les paradoxes quantiques évoqués lors du colloque déchiffrement par l'administrateur du Collège de France, Thomas Romer, bibliste et polyglotte comme vous, Jean-Luc Fournet, on va commencer par remonter le temps et le déchiffrement des premières écritures de l'Antiquité avec vous. Vous êtes, Jean-Luc, je l'ai dit, professeur au Collège de France sur la chaire culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Vous êtes papyrologue, on l'a dit, mais vous avez aussi craqué un code. Un code, pas sur papyrus, mais un code finalement illisible sur des amphores, c'est
ça ? Sur des amphores, effectivement. Parce que ma spécialité, évidemment, ce sont les papyrus, hein, comme l'indique le terme de papyrologue. Donc, j'étudie les papyrus grecs. Mais plus largement, aussi, tous les supports écrits en grec. Il y en a un qu'on a tendance à négliger, ce sont les amphores, puisque dans l'Antiquité, évidemment, on buvait du vin, on fabriquait, on exportait, on importait du vin.
Dans et des donc, amphores.
On a retrouvé et des oui. dizaines de milliers d'amphores partout dans le monde méditerranéen. Et sur un certain nombre de ces amphores qui proviennent de l'Orient, on va dire, grec, eh bien, on a, à l'époque byzantine, c'est-à-dire, on va dire, aux alentours proto-byzantines, aux alentours du 4e avant jusqu'au 5e, jusqu'au 7e, 8e après, on a retrouvé des inscriptions qui, pendant très longtemps, n'ont pas réussi à être déchiffrées. On voyait bien qu'il y avait quelques lettres grecques, mais globalement, on n'arrivait pas à les comprendre.
Si on n'avait pas le sens, en fait.
Voilà. Et en fait, c'est tout simplement qu'il s'agit de notations sur ces amphores qui parlent du contenu de l'amphore, de la quantité de vin qu'il y a dans l'amphore, du lieu de production, de la façon dont ces amphores étaient transportées, d'où elles étaient remplies, etc., etc. Donc, un certain nombre d'informations que nous avons actuellement, par exemple, sur des bouteilles de vin ou des bouteilles d'eau, vous avez des étiquettes. Et sur ces étiquettes, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, ne serait-ce que le code-barre. Vous montreriez un code-barre à des personnes dans 2000 ans, je ne suis pas sûr qu'elles seraient capables de comprendre. Et donc, il y avait aussi, dans la façon de noter ces informations économiques sur les amphores, on a aussi essayé de les coder d'une certaine façon, ou de les écrire, disons, d'une façon qui fait que ce sont des inscriptions qui ont pendant très longtemps résisté aux...
C'est ça qui, au fond, était peut-être réservé aux initiés. Et du coup, ça veut dire que votre rôle de déchiffreur, on peut le dire comme ça, c'est aussi de comprendre un peu la société dans laquelle on évolue. C'est-à-dire qu'au fond, il faut, comme Champollion l'a fait, on va y revenir, craquer le code d'une écriture inconnue, mais aussi les codes d'usage d'une langue, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, quand je dis, par exemple, je déchiffre des papyrus, en fait, je devrais dire, cette opération de déchiffrement, elle se fait à deux niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau, il s'agit de lire le papyrus. C'est-à-dire d'arriver... alors, j'ai fait allusion tout à l'heure, les papyrus sont souvent troués, abîmés, salis, etc. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à lire. Et il y a de temps en temps, il faut restituer même des mots qui sont dans les lacunes. Bon, donc ça, c'est le premier travail. Mais au-delà de cela, il y a une deuxième opération qui est comprendre, et pas simplement lire, comprendre ce que dit le papyrus.
Ça, c'est encore une autre paire de manches, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire comprendre tout simplement la situation concrète devant laquelle on se trouve, ce n'est pas toujours facile. Quand vous avez, par exemple, une lettre qui dit « Oh, je t'écris au sujet de l'affaire que tu connais, si tu peux en parler à un tel, etc. » Évidemment, il s'agit d'une personne qui écrit à une autre personne. Elles se connaissent, elles échangent sur des informations que toutes les deux connaissent, mais 2000, 3000 ans après, nous ne connaissons plus les circonstances dans lesquelles ces lettres ont été écrites. Donc ça, c'est ça rend le travail, disons, de compréhension difficile. Mais même une fois qu'on a compris la situation concrète, on va dire, dont parle le papyrus, il faut arriver aussi à comprendre dans quel contexte il vient s'insérer. Et c'est là qu'il y a tout ce travail, disons, de remise en perspective des faits, quelquefois anecdotiques, dont parle, même souvent anecdotiques, dont parle les papyrus, pour essayer de reconstituer la civilisation, la société, la culture dans lesquelles ces textes ont été écrits.
Et c'est vraiment tirer un fil insensé. Est-ce que vous faites votre cette... On dit que Champollion disait ne rien deviner, tout démontrer. Est-ce qu'on y arrive quand on est papyrologue?
C'est ce qu'il faudrait faire constamment, effectivement, partir toujours des faits, partir des signes, caractères, ouais, ouais. etc. Il y a toujours un travail d'interprétation.
Bien sûr.
Quand Champollion disait cela, en fait, c'est qu'il fallait qu'il prenne le contre-pied de siècles et de siècles de tentatives de déchiffrement des hiéroglyphes qui se sont fondées sur des bases philologiques extrêmement peu solides. Et donc, il fallait absolument que Champollion détermine une voie solide pour pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Et il faisait allusion à cela. Il a essayé d'être le plus concret possible et d'interpréter le moins possible.
D'être le plus scientifique possible.
Le plus scientifique possible,
c'est ça.
Exactement.
Autour de la question comment Champollion, justement, a-t-il réussi à déchiffrer les hiéroglyphes, je rappelle, Jean-Luc, que vous êtes aussi commissaire scientifique de l'exposition au très joli titre Champollion 1822 et l'Égypte retrouvera la parole. Également, vous avez également dirigé le catalogue qui accompagne cette exposition. Alors, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Il y a tout juste 200 ans, à l'écoute d'un extrait qui ne date pas de 200 ans, heureusement, d'une archive de l'INA qui date de 1973. Réalisation Pierre Cavaillas pour l'ORTF sur le jeune écolier Champollion qui, à 11 ans, lisait déjà couramment le latin et le grec et préparait même un livre sur l'Égypte ancienne.
Ses camarades l'ont surnommé l'Égyptien à cause de sa passion. C'est alors qu'un cousin revenu d'Égypte lui confie un relevé de la pierre de Rosette. Cette chance confirme sa vocation. Il sait bien ce qui lui manque pour progresser. De l'hébreu, il apprend les dialectes. Il ajoute sans tarder l'arabe et le syriaque à son savoir. À 16 ans, la science de Champollion est telle que les académiciens de Grenoble admettent parmi eux ce lycéen. Il fonce vers Paris. De l'Institut des langues orientales, il retire la connaissance du copte et de l'éthiopien, car il sait, lui, Champollion, que la trouvaille ne viendra pas d'un quelconque décrypteur de codes secrets, mais d'un authentique philologue. Philologue et professeur d'histoire, il le devient. L'occasion d'un grand progrès est fournie à Champollion par la découverte d'un obélisque à Philée, qui comporte le nom de Cléopâtre. Il peut alors établir bon nombre de correspondances en admettant que certaines consonnes peuvent s'écrire différemment, telles le F et le PH français. Disposant dès lors d'un début d'alphabet, Champollion applique sa trouvaille à toutes sortes de noms propres, dont on sait qu'ils sont grecs ou romains. En interprétant les symboles laissés vides de correspondance par son alphabet incomplet, il traduit le nom d'Alexandre et découvre du même coup de nouvelles valeurs. La méthode se révèle bonne également pour les noms propres des pharaons égyptiens. La traduction des noms de Ramsès et de Toutmès constitue pour lui un succès décisif. Son coup de génie fut d'avoir imaginé que cette écriture d'allure si symbolique pouvait être à la fois idéographique et phonétique. Personne avant lui n'avait envisagé cette hypothèse.
Comment est-il arrivé à cette hypothèse, le génial Champollion? Jean-Luc Fournet, dans ce colloque déchiffrement au Collège de France, votre communication portait précisément sur cette question. Pourquoi seulement en 1822? Quels obstacles, au fond, au déchiffrement de ces hiéroglyphes? Enfin, énorme, monstrueux, mais comment y est-il arrivé?
Il y en a pas mal. En fait, on a commencé à s'intéresser aux hiéroglyphes au moment où on redécouvre l'Antiquité. On se situe au XVe siècle. Les érudits, les humanistes de l'époque, en même temps qu'ils redécouvrent les auteurs grecs et latins, s'intéressent aussi à ce que ces mêmes auteurs disaient de l'Égypte. Et certains parlaient justement des hiéroglyphes. Et en plus, on a découvert en 1419 un manuscrit qui transmettait un traité sur les hiéroglyphes écrit en grec par un certain Aurapollon. Et donc, on s'est dit, voilà, ce traité va permettre de comprendre les hiéroglyphes. En fait, pas du tout, parce que ce traité donne juste des équivalences en disant, par exemple, les Égyptiens pour écrire écrire le mot mère, dessiner un vautour. Pourquoi le vautour ? Et il y avait une explication ensuite qui suivait. Mais en fait, ce sont des notations, on va dire, de traduction, d'idéogrammes qui sont additionnés dans ce traité, mais rien sur la langue elle-même, sur la structure de la langue, comment elle fonctionne, etc. Et donc, à partir de ce traité, et à partir des conceptions que les Grecs se sont faites des hiéroglyphes, et qui étaient donc redécouvertes à cette époque, on a essayé de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais les Grecs s'étaient fait une conception extrêmement ésotérique des hiéroglyphes.
Ils pensaient que c'était dessins, en fait,
une espèce d'écriture mystérieuse qui scellait une sagesse que Dieu avait jadis transmise à quelques initiés, et que les textes hiéroglyphiques ne pouvaient exprimer que des choses tout à fait sublimes, etc. Jusqu'à, par exemple, Kircher, qui est le premier qui a vraiment essayé de façon systématique de déchiffrer les hiéroglyphes au XVIIe siècle, bien Kircher était persuadé que dans les hiéroglyphes, on ne pouvait voir que une sagesse tout à fait sublime, ésotérique, une théologie mystérieuse, etc. Et donc, on ne pensait pas qu'il puisse y avoir une dimension phonétique dans les hiéroglyphes.
Parlée, au fond, parce que c'est le titre aussi de l'exposition. L'Égypte retrouve la parole.
Et en fait, on a jusqu'à Champollion, ou un petit peu jusqu'au XVIIIe siècle, on va dire, on a dissocié complètement la langue des Égyptiens et leur écriture. Il a fallu à la fois déchiffrer les hiéroglyphes, c'est-à-dire voir ce que chaque signe signifiait, la combinaison de ces signes, et la langue qui était derrière. Et alors, on avait pensé depuis déjà un certain temps que le copte, c'est-à-dire la dernière phase de l'égyptien ancien qui était notée par des lettres grecques, qui était une langue, justement parce qu'elle était écrite avec des caractères grecs, une écriture et une langue qui était connue au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, Kircher a fait beaucoup pour la redécouverte du copte. Et donc, on avait pensé que le copte était probablement le dernier état de la langue égyptienne, et qu'avec cette langue parlée, on allait pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Mais on butait sur le problème de la signification des caractères hiéroglyphiques. Et Champollion est le premier à avoir émis l'idée qu'il y avait une combinaison de caractères à la fois des signes valants des idées, c'est-à-dire des idéogrammes,
chinois, en japonais.
Voilà, et des signes valants des sons, c'est-à-dire des phonogrammes. Voilà.
Comme en japonais d'ailleurs aujourd'hui.
Comme dans nos langues alphabétiques, où un signe égale un son. C'est un système extrêmement complexe, puisqu'il y a donc des phonogrammes, des idéogrammes. Il y a même des caractères qu'on rajoute à la fin de certains mots pour dire à quelle catégorie sémantique ils appartiennent. Ce qu'on appelle des déterminatifs, ou des classificateurs sémantiques. Donc c'est une écriture extrêmement complexe que Champollion est le premier donc à avoir déchiffré, en partant sur des bases philologiques extrêmement solides, parce que il avait une certaine connaissance de langue de l'Antiquité, et en se fondant aussi sur des découvertes récentes comme l'obélisque dont il était question
et grâce au copte, cette langue
surtout grâce au copte,
cette langue que vous déchiffrez vous aussi sur des papyrus.
Voilà, exactement.
Alors, je vous propose, autour de la question de tous ces déchiffrements, je propose une pépite, rien que pour vous et pour tous nos auditeurs et auditrices aussi. C'est le plus ancien chant du monde connu à ce jour. Il date de 3800 ans. C'est l'hymne mésopotamien d'Ougarit, reconstitué à partir des indications musicales et des paroles, retrouvées sur des tablettes d'argile sur le site d'Ougarit et conservé aujourd'hui au musée de Damas. C'est un musicien passionné, un baryton, Johann Borrell, qui l'interprète, cet hymne à la déesse mésopotamienne Nikkal. Et c'est pour vous, cadeau.
M'hanoutani yashasive, shinute suturi yahubugara, kudurnita shakilatsili shipri, umaru hatuari. Umaru hatuari Wandani tahukuri kukurtisha Ulali kapki alip gishirit munushu Weshalta tiptishia Weshalta diptishia Unuga kapshili Unuga takli Sham sham meli luklal tununitaka hanuka Kalitani nikala Kalitani nikala Nyura shalhana hanuteti Atyashtalatari teti hanuka La 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 shati Wewe hanuku Wewe hanuku.
Le plus vieux chant du monde, l'hymne d'Ougarit, interprété et reconstitué par le baryton Johan Barrel, à partir des indications retrouvées sur des tablettes d'argile datées 3800 ans et qui comportent même des indications musicales. Mais pas les notes. Vous en pensez quoi, Jean-Luc Fournet ?
Tout d'abord, c'est extrêmement émouvant d'entendre ce chant qui vient de la... La nuit des temps, c'est le cas de le dire, mais c'est aussi un tour de force intellectuelle que d'avoir essayé de reconstituer pas simplement les paroles, mais aussi les sons, parce que évidemment les musiques dans l'Antiquité étaient comme aujourd'hui codées. D'ailleurs, on parle de déchiffrage d'une partition était codée, et on a toujours ce problème pour arriver à les rendre, disons, dans un code actuel. On a le même problème avec les papyrus musicaux.
Il y a des papyrus musicaux.
Oui, on a trouvé un certain nombre de partitions, on va dire, musicales. Alors, ce sont toujours des chants accompagnés de notes, des notes qui sont notées selon des systèmes qu'il n'est pas facile de reconstituer.
Et oui, qu'il faut encore déchiffrer, décoder. Voilà.
Donc, il y a eu des tentatives de déchiffrement, mais c'est extrêmement complexe.
Autour de la question, comment déchiffrer les mondes anciens, qui furent les nôtres, mais tous ces mondes anciens, comment déchiffrer aussi nos vies en votre compagnie, Jean-Luc Fournet, je rappelle que vous êtes papyrologue, professeur au Collège de France, en votre compagnie, Hélénie Diamantier, alors vous êtes physicienne, spécialiste de cryptographie quantique, et vous avez participé au colloque déchiffrement du Collège de France, des hiéroglyphes à l'ADN, ce code génétique clé de tout le vivant, qu'on a déchiffré, qu'on a craqué, même si on est loin d'en comprendre le sens. Ça, c'est l'éclairage de la professeure d'anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle, Evelyne Heyer, spécialisée en génétique des populations et autrice, entre autres, de l'Odyssée des gènes, qui était récemment notre invitée.
Alors, le déchiffrement de l'ADN, c'est une question vraiment super, parce que en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séquencé l'ADN. C'est-à-dire, on a lu la série de lettres, des 3 milliards de lettres que forme notre ADN, A, C, T, G. Dans quel ordre c'est ? Par exemple, A, A, C, T, G, A, A. Mais là, on vous dit lire. Mais en fait, lire, c'est inexact. Parce que quand on lit, il y a du sens derrière. Or, en fait, ce qu'on a, c'est la succession des lettres. Et après, il faut mettre du sens dessus. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il y a déjà eu une partie qui a été, au milieu de toutes ces lettres, de trouver vraiment quelles étaient ce qu'on appelle les gènes, c'est-à-dire la partie des lettres qui permettent de faire quelque chose. Où on sait clairement, voilà, ça va faire une protéine, donc ça va faire quelque chose. Donc, ça, on est arrivé vraiment, on va dire, à déchiffrer cette partie-là. Donc, ça, c'est 2% de l'ADN. Mais après, il y a plein d'autres morceaux de l'ADN où, entre guillemets, on l'a lu, mais sans le comprendre. Et il y a encore tout ce travail qui est à faire. Alors, il y a des bouts où on se rend compte qu'effectivement, ça joue sur certains gènes. Donc là, on peut dire qu'on a lu cette partie, vraiment, parce que maintenant, on sait à quoi elle sert. Mais il y a toute une grande partie de l'ADN où, en fait, on ne l'a pas lu, en quelque sorte, vu qu'on n'a pas traduit le message.
On l'a déchiffré, mais sans le traduire, sans le comprendre.
Voilà. On l'a déchiffré, tout à fait. On a déchiffré, c'est-à-dire on a la série de lettres, mais on ne sait pas encore le lire, c'est-à-dire donner sens à toutes ces lettres.
Sur un nombre de...
Enfin, il y a combien de milliards de lettres ? Les combinaisons, alors là, c'est facile. Si à chaque lettre, vous en avez 4, la lettre d'après 4, donc vous faites 4 fois 4 fois 4 fois 4 sur 3 milliards... Wouhou!
Mais donc, pour vous, généticienne des populations, Evelyne Heyer, la vie, puisque l'ADN, c'est la vie, le vivant, ça se déchiffre.
Ben oui, on déchiffre. Et alors moi, ce que je déchiffre dans cet ADN, c'est pas de comprendre à quoi servent chacune de ces lettres, mais c'est de compter le nombre de différences entre les gens pour pouvoir retracer des histoires. Moi, je compare l'ADN des individus. Et en général, j'utilise des bouts d'ADN, a priori, on ne sait pas encore à quoi ils servent, qui servent peut-être à rien. Et donc, je vais regarder, en comparant des individus, je vais compter combien ils ont de lettres de différence. Et cela, ça va me donner une idée de quand ils ont des ancêtres en commun. Et du coup, je vais pouvoir retracer s'ils ont des ancêtres en commun ou pas, et s'il y a eu des migrations entre les groupes humains et les datés.
Jusqu'où nous entraînera le déchiffrement de l'ADN? Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Evelyne Heyer et Eleni Diamanti, mais moi, j'ai une question pour la spécialiste cryptographie. Ah oui, j'y arrivais plus. De cryptographie quantique que vous êtes, physicienne aussi. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à une période, au fond, de chiffrement et de déchiffrement très particulière? L'ADN et la cryptographie quantique, enfin, je fais un raccourci très rapide, mais...
Si, bien sûr, ça fait quand même partie d'une même démarche scientifique, finalement, d'essayer de déchiffrer de façon efficace. Dans le cas de l'ADN, moi, je trouve ça vraiment formidable. Je trouve vraiment les efforts et tous les processus qui a ramené à ce déchiffrement de l'ADN. C'était une séquence, j'avais lu à un moment, il y a un petit peu de temps, justement, c'était presque comme un thriller, justement, l'histoire de ce déchiffrement de l'ADN. Et l'effet que ça ouvre, maintenant c'est en commun d'ailleurs avec la révolution quantique dont on a parlé, tout à tel que ça ouvre des portes et des perspectives vers des nouvelles applications, ces nouvelles connaissances, comment on peut les utiliser. Je pense que ça doit être un moment extrêmement stimulant pour les généticiens et pour
les collègues qui travaillent. C'est ça, et qui se servent aussi de la rapidité de calcul, justement, toutes ces hypothèses, toutes ces propositions notamment données par l'ADN. Alors revenons-en à votre spécialité, parce qu'elle nous intéresse tous. Oui. Dans cette révolution quantique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Eleni Diamanti, un cryptage quantique?
Oui.
D'abord cryptage, donc, parce qu'avant de décrypter, il faut crypter.
Bien sûr. Donc il faut exactement. Donc il faut commencer déjà par les codes, comment ça fonctionne. Donc jusqu'à maintenant, et même encore toujours, parce que pour le moment, la cryptographie quantique n'est pas appliquée. On l'utilise pas dans la vie de nos.
Vous recherchez, vous essayez de trouver des pistes, mais on l'utilise pas encore.
Il y a même des systèmes commerciaux, enfin.
Qui l'utilisent déjà.
Oui, on est plus très loin. On est plus très loin. Mais disons que les codes standards cryptographiques qui se sont développés depuis plusieurs années maintenant, se repose sur des lois mathématiques. Donc, c'est la difficulté, justement, de décoder des certaines fonctions mathématiques. Elles sont plus faciles à résoudre dans une direction, dans un sens que dans l'autre. C'est essentiellement ça, ça revient beaucoup
à ça.
Beaucoup de ces codes, des codes de chiffrement qu'on utilise dans nos systèmes cryptographiques aujourd'hui sur Internet, par exemple, c'est basé sur la difficulté et donc de certains problèmes mathématiques. Et donc, justement, donc c'est considéré comme un problème algorithmique, comme un problème calculatoire. Donc, la cryptographie, donc, c'est une science mathématique, informatique. Jusqu'à maintenant, c'était le cas.
Et qu'est-ce qui change, alors, justement, cette cryptographie quantique? C'est plus basé sur les algorithmes, sur cette...
Voilà, exactement. On parle maintenant d'un changement de paradigme vraiment complet et absolu, et vu qu'il y a quand même une certaine inertie dans le monde de la sécurité, d'adoption des nouvelles technologies. C'est pour ça qu'il faut commencer à s'y intéresser vraiment très sérieusement.
Parce que c'est en train d'arriver.
Justement, c'est
en train d'arriver. Et parce que, justement, ça pourra décrypter, déchiffrer, et donc passer à travers tous nos systèmes de sécurité actuels, c'est ça?
Exactement. Donc, comme on vient de dire, donc nos codes, donc nos algorithmes de chiffrement actuels sont susceptibles, c'est basé sur certaines hypothèses. Donc, c'est comme vient de dire, la difficulté de certains problèmes mathématiques. Donc, s'il y a des nouvelles technologies, comme par exemple un ordinateur quantique, et d'autres potentiels avancés dont on n'est pas au courant, ça pourrait, on sait maintenant, aujourd'hui, on est parfaitement, c'est bien prouvé, solidement, que ça peut donc mettre en difficulté, en péril, nos systèmes cryptographiques actuels.
D'où l'intérêt de faire quelque chose. Avant de vous laisser continuer, j'ai une question là-dessus, soulevée par une de mes consoeurs, Mathilde Fontaise, rédactrice en chef d'Epsilon. On l'écoute et vous allez répondre, parce que c'est précisément ce sur quoi vous alliez répondre. On écoute Mathilde Fontaise.
Est-ce qu'on se prépare déjà dans les laboratoires à mettre au point des protocoles, alors des protocoles soit quantiques, soit des protocoles non quantiques mais différents, qui seraient capables de résister à l'assaut de l'ordinateur quantique, qui lui a vocation à casser une certaine partie des codes, et en particulier les codes de cryptage qui nous permettent de sécuriser nos achats sur Internet?
Votre réponse est
la démentie. Donc la réponse courte est tout à fait, oui.
On se prépare.
On se prépare. Donc on travaille les deux aspects qui ont été mentionnés, justement. Il y a donc deux façons de concevoir des solutions à cette menace, donc cette menace contre nos systèmes cryptographiques actuels. L'une vient donc du monde quantique, où maintenant on vient justement, ce n'est plus un problème mathématique, bien sûr, on a toujours besoin des mathématiques.
De calculs, hein.
Donc il y a des protocoles, etc., des calculs. Mais là, on vient vraiment au niveau, comme on a dit tout à l'heure, de la particule physique, donc quantique, on vient vraiment la manipuler dès l'information, et c'est elle et c'est les propriétés de ces particules quantiques qui vont nous servir pour coder, pour générer cette clé secrète, donc cette série aléatoire des bits dont on a besoin pour échanger des messages secrets.
C'est-à-dire que ça va vraiment être dans la matière elle-même, dans l'infiniment petit de la particule de la matière, qu'on va coder l'information.
Exactement.
Plus grâce à des calculs.
Et très spécifiquement, juste parce que ce n'est pas n'importe quelle particule, pour la cryptographie quantique, on utilise la grande des lumières, les photons. Donc, plus spécifiquement, on sait même quelles particules on va utiliser. C'est la lumière pas tout à fait comme la lumière qu'on utilise dans nos maisons, mais c'est donc une lumière quand même avec des propriétés spécifiques où il faut bien la manipuler au niveau, comme on a dit, de la particule unique. Et ça, maintenant, on a les ressources, on a les moyens de faire ça dans nos laboratoires.
Vous êtes capable de crypter, de rentrer un code un photon de lumière. Vous êtes capable de faire ça, Aline Diamanti.
Tout à fait, oui.
Et alors, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui coince? Il n'y a pas encore d'ordinateur quantique, mais vous travaillez déjà pour cette nouvelle génération.
Oui. Oui, absolument. On travaille déjà. Donc, les physiciens et aussi ingénieurs, il faut beaucoup d'expertise ensemble pour mettre en place de tels systèmes. Ça, c'est un fait. Et donc, on travaille sur la mise en place de ce type de système. Mathématiciens travaillent, comme a été mentionné dans la question, sur des nouveaux algorithmes qu'on appelle post-quantiques ou résistants face à une attaque par un ordinateur quantique.
D'accord.
Donc ça, c'est encore des algorithmes mathématiques. Et on travaille main dans la main, ensemble, pour mettre en place des solutions hybrides, donc quantiques et classiques.
Ah, c'est ça.
Oui, qui seront la base beaucoup plus solide que ce qu'on a maintenant. On se prépare pour l'avènement de l'ordinateur quantique. On n'y est pas encore. Il faut quand même être très clair
sûr,
là-dessus.
Oui, oui.
On n'est pas encore.
Ça
n'existe pas un système qui peut casser en ce moment nos systèmes cryptographiques. Mais comme j'ai dit, ça prend beaucoup d'années de rendre tous ces systèmes solides, robustes, bien comprendre tout ce qui se passe en théorie, en principe, on comprend la théorie, mais il faut quand même rendre tout ça vraiment implémentable dans la vraie vie.
C'est ça, d'autant qu'alors vous dites robuste, mais la publicité autour de cette cryptographie quantique, c'est inviolable, c'est
tout
possible,
à fait. Tout à
une
fait.
Cryptographie
principe,
inviolable.
Oui, si on peut dire, c'est une question presque philosophique,
mais oui, absolument.
Et d'ailleurs on en a traité de cette question dans les colloques,
chiffrement.
On a parlé, est-ce que ça existe? La question qu'on s'est posée dans la session sécurité et cryptographie, est-ce que ça existe, la sécurité parfaite?
Mais oui, c'est ça.
Ou est-ce que c'est une chimère? On s'est posé cette question. Donc, ma réponse est qu'avec la cryptographie quantique, on se rapproche très près d'une sécurité parfaite. Donc, en principe, c'est inviolable. Dans le monde idéal, les principes quantiques sont très clairs. On peut les appliquer, on sait que c'est inviolable. Mais est-ce qu'une sécurité parfaite existe dans un monde imparfait? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre parfaitement. Je dirais qu'on s'approche le plus possible.
On s'en approche.
Voilà,
on compte sur vous, Aline Diamanti, pour nous dire quand on y sera vraiment autour de la question. Comment déchiffrer les mondes, alors passé et puis les mondes à venir, mais aussi les messages cachés dans certains morceaux de musique. Petite devinette à suivre, chers amis auditrices et auditeurs, autour de ce morceau mythique des Beatles, Rain. À écouter jusqu'au bout de la pluie.
We'll be right back.
sur RFI. Alors, vous avez trouvé le message caché dans ce morceau Rain des Beatles. Pas facile, franchement. On va vous aider en vous repassant la fin du morceau à l'envers. C'est à toi, Thibaut. Vous avez entendu « If the rain comes, they run and hide their head ». Comme quoi, on peut tout coder ou presque, reste à trouver la clé hein, pour le déchiffrer. Autour de la question « Comment déchiffrer le monde ?», en compagnie de nos invités, le papyrologue Jean-Luc Fournet, professeur au Collège de France, et la physicienne spécialiste en cryptologie quantique Eleni Diamanti. Tous deux ont participé au colloque de rentrée du collège consacré au déchiffrement des hiéroglyphes à l'ADN en passant par la cryptographie quantique et même la bioacoustique. Comment et pourquoi déchiffrer les sons du vivant et même le langage des animaux? C'est l'éclairage bio et éco acousticien de Jérôme Sueur du Muséum National d'Histoire Naturelle qui était récemment notre invité.
En bioacoustique, on déchiffre le langage, les communications animales. On dit qu'on casse le code, c'est-à-dire qu'on veut savoir comment les animaux codent les informations. Est-ce que c'est sur le rythme? Est-ce que c'est sur la fréquence? Est-ce que c'est sur le timbre? Est-ce que c'est sur la syntaxe? Donc on est vraiment, quand on fait la bioacoustique, on est un déchiffreur. Donc voilà, avec des techniques, on cherche à comprendre le hiéroglyphe des animaux.
Et avec quels outils? Avec des
Alors,
outils.
Alors, on utilise des outils de repas, c'est-à-dire qu'on interroge les animaux, on leur repasse le chant d'un voisin ou d'un autre, qu'on change, et c'est cette modification que l'on teste. Et s'ils répondent, c'est que en fait, on n'a rien changé. Et s'ils répondent pas, c'est qu'on a changé quelque chose. Et que donc, cette partie est importante dans leur système de communication. Donc, c'est vraiment par l'interrogation et l'expérimentation qu'on arrive à déchiffrer.
Jérôme Sueur interroge les animaux pour déchiffrer leur langage. Jean-Luc Fournet, pour vous, c'est un peu plus compliqué. Vous ne pouvez pas vraiment interroger les anciens grecs, byzantins, ou coptes, égyptiens.
Mais non, malheureusement, effectivement, il y a tout un travail à faire. Entre le papyrologue et son papyrus, il y a un dialogue qui s'instaure.
Avec votre papyrus. Hein,
mais
ouais.
je voudrais dire, oui, on a beaucoup parlé du déchiffrement comme une opération philologique, mathématique, mm-hmm. relevant de la physique quantique, etc. Mais c'est avant tout, dans mon domaine, un grand plaisir. C'est-à-dire
oui.
que
la, oui, bien
le,
sûr.
Le contact
Merci
avec
de dire.
Un texte ancien qui n'était pas, qui n'a jamais été lu depuis des siècles, ouais, des ouais, millénaires, ouais. Et qui revient à la vie comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens encore avec émotion le premier papyrus que j'ai déchiffré en jeune étudiant en papyrologie. C'était extraordinaire comme impression physique.
On a l'impression d'une proximité avec ces anciens là. Ou...
On a l'impression effectivement refaire parler l'Antiquité. Et ça, c'est extraordinaire.
Vous entendez, enfin nous, on est à la radio, donc on aime bien faire fonctionner nos oreilles, mais est-ce que vous entendez, vous, ces textes que vous déchiffrez ou pas, ou ça se passe vraiment
Alors non, parce que malheureusement, on ne sait pas toujours très bien comment...
ça se prononçait.
Même le grec, qui est quand même une langue encore pratiquée, donc bien connue, on ne sait pas toujours quelle était la prononciation dans l'Antiquité. Mais alors, heureusement, les papyrus, surtout les papyrus grecs, où on a des textes qui sont écrits par des gens qui ne sont pas forcément des hellénophones natifs, par exemple des coptes, justement, des égyptiens, qui écrivent et qui, du coup, font des fautes. Et ces fautes nous permettent de comprendre un peu les sons qu'il y a derrière les lettres. C'est comme ça qu'on sait, par exemple, que certains phénomènes qu'on a actuellement en grec moderne, par exemple, certaines lettres qui se prononcent « i », ce qu'on appelle techniquement l'iotacisme, c'est quelque chose qui remonte déjà à l'Antiquité. Et on a ces phénomènes-là dans les papyrus. Bon, alors, il y a cette dimension sonore, mais je dois dire que c'est surtout, avant tout, évidemment, quelque chose de visuel.
Bien sûr, et dans la proximité avec ces peuples-là. Eleni Diamanti, alors vous êtes grec, mais grec
oui.
tout à fait contemporaine.
Je connais Lydie.
jusqu'où pensez-vous que vous pourrez aller dans cette cryptographie?
cryptographie quantique dans ce chiffrement et déchiffrement, ce sera le mot conclusion.
Ce magnifique monde des technologies quantiques ne fait que commencer. C'est une révolution qui est presque à ses débuts, je dirais, malgré tous les avancées qu'on a fait ces dernières années. Donc pour moi aussi, c'est un énorme plaisir de travailler dans ce domaine, parce qu'aller au fondement de la physique quantique, aller chercher exactement un sens quand même, on peut utiliser la physique fondamentale pour des applications dans la cryptographie, dans les chiffres mots, dans des applications qui s'appliquent quand même dans la vraie vie. J'ai pris un très grand plaisir en faisant ça.
Le plaisir de déchiffrer et d'aller dans le secret de la matière, au fond.
Oui, exactement. Et de contribuer comme ça quand même dans un besoin concret, et de faire ça de façon, si tout va bien, accessible à tout le monde. Donc, il faut veiller à tout ça de façon démocratiquement accessible, énergétiquement aussi. C'est une question qui se pose aussi. Quand on a la chance de développer une nouvelle technologie qui commence tout juste maintenant, on espère pouvoir le faire mieux qu'avant.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Eleni Diamanti. Vous revenez nous en parler. Merci Jean-Luc Fournet. Je renvoie bien sûr sur le site du Collège de France. Le lien est sur notre page pour avoir tous les échanges audio et vidéo du colloque déchiffrement. Et pour aller encore plus loin et nous amuser nous aussi un petit peu, Thibaut Baduel, notre réalisateur, a même codé notre indicatif de fin. Vous le reconnaissez ou pas ? Autour de la question en morse, c'était une première et c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à déchiffrer bien sûr et à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.